Être édile, ce n'est pas toujours une divine idylle. Mais au juste, comment vit-on la fonction de maire aujourd'hui? 3 mois après les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël et qui ont secoué tout le pays, ce cadre ayant conduit à l'attaque de la maison du maire de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, tout cela nous rappelle qu'être le premier magistrat et un officier de police judiciaire dans sa commune, c'est un engagement de tous les instants. A-t-on peur quand on est maire? Cette question, parmi beaucoup d'autres, sur l'écologie, l'accessibilité et l'inclusion, je les ai posées à Laurent Bonnaterre, maire de Caudebec-lès-Elbeuf, conseiller métropolitain à la métropole Rouen-Normandie et conseiller régional. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans le podcast Normand. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur le maire de Caudebec-lès-Elbeuf, Laurent Bonnaterre. Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Merci. Première question que je pose à tous mes invités. Where is Brian?
Brian is in the mayor office in Caudebec-lès-Elbeuf. Brian est dans le bureau du maire de Caudebec-lès-Elbeuf, charmante ville de 10 000 habitants au sud de la métropole de Rouen, pleinement dans la métropole de Rouen, mais aussi voisine de l'Eure, une ville de 10 000 habitants qui va bien, qui se développe, qui se dynamise, et vous êtes dans le bureau d'un maire heureux.
Un maire heureux. Vous avez été réélu en juillet 2020, c'est ça,
hein? Oui, réélu au printemps, puis installé en juillet, vous savez, avec la période Covid, c'était assez compliqué.
C'était ça qui m'avait fait réélu au printemps,
puisque nous avions une liste unique à Caudebec au printemps dernier, enfin 2020, et donc oui. Notre élection était, comment dire, acquise dès le dépôt des listes.
Et donc justement, vous me ferez une parfaite transition. Vous êtes un maire heureux, vous dites. On est quand même dans un contexte, il faut le dire. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit juste avant qu'on prenne l'antenne. J'ai écrit un papier à ce sujet et c'est important de le rappeler vis-à-vis notamment des derniers événements, des émeutes notamment. Je tiens bien sûr à rappeler, et tous ceux qui m'entourent au podcast Normand, le soutien aux élus tous bords qui subissent les dérives de beaucoup de délinquants qui existent. C'est une violence qui existe, il ne faut pas la nier. La violence contre les élus a augmenté ces dernières années. Une des questions que je voulais vous poser tout bêtement vis-à-vis de cela, c'est est-ce que vous avez peur vous-même?
Alors non, je n'ai pas peur, déjà parce que ce n'est pas ma nature, je suis pas d'une nature peureuse. Mais par ailleurs, je n'ai pas peur parce que nous n'avons pas ce genre de phénomène jusqu'à présent à Caudebec-lès-Elbeuf. Est-ce que j'ai déjà été insulté, menacé sur les réseaux sociaux? Oui, mais on connaît la volatilité des réseaux sociaux et la capacité des gens à écrire des choses complètement hors de propos. Ça m'est arrivé plusieurs fois de porter plainte lorsque je trouvais que ça dépassait les bornes, notamment lorsque le conjoint d'une commerçante en difficulté sur Caudebec avait eu la bonne idée de menacer les élus de Caudebec parce que le commerce de sa femme ne marchait pas. Là, j'avais trouvé qu'on dépassait quand même très largement les limites des choses. Mais sinon, dans notre rapport et dans mon rapport avec la population de Caudebec, je n'ai pas peur. Ouais. Et vous faisiez référence à l'Haÿ-les-Roses et aux émeutes. Oui. Pendant la période d'émeutes, il n'y a pas eu d'émeutes à Caudebec, il n'y a pas eu de dégradation, il n'y a pas eu de dégâts, mais elles étaient très près de chez nous, hein. Elles étaient juste dans la ville d'à côté, à Elbeuf. Et avec les collègues élus, nous sommes sortis toutes les nuits et nous sommes allés à la rencontre des gens qui étaient dehors, qui n'étaient pas des émeutiers, qui parfois pouvaient être des gens qui pouvaient être tenté par faire une bêtise, et je pense que notre présence a fait que ces gens-là, qui étaient plutôt des gens plus tranquilles, n'ont pas passé le cap d'aller faire une bêtise, voilà.
Et donc, en fait, ce que vous dites, c'est que vous étiez notamment avec les policiers faire des rondes.
Alors, pas les policiers, parce que il se trouve que l'équipe de police municipale à Caudebec est une petite équipe et on souhaitait pas exposer la police municipale en pleine nuit. D'habitude, elle travaille quand la nuit, hein, la police municipale à Caudebec. Elle fait la soirée, l'été notamment. On voulait pas qu'une voiture de police municipale, dans cette période de grande tension, devienne une cible. Et donc, c'était des voitures banalisées qui tournaient avec des agents municipaux et des élus municipaux, le maire, les adjoints. Je suis assez connu dans ma commune, le moins qu'on puisse dire. Et donc, lorsque je m'approchais d'un groupe, qu'il soit jeune, moins jeune, alcoolisé, pas alcoolisé, de tendance un peu bruyante ou pas bruyante, le dialogue s'instaurait assez vite. Ceux qui avaient tendance à se mettre en route pour faire une bêtise, voyez que le maire était là, que les adjoints les avaient vus, ils touchent du bois. À ce stade, on n'a pas eu de problème.
Et ça justement, pour vous, ça vous définit, c'est votre rôle aussi en tant qu'élu local d'aller comme ça au contact direct de vos concitoyens.
Alors oui, absolument, vous venez de donner pour moi la définition parfaite de ce qu'est un élu local. D'abord, il doit être au contact de ses administrés, quels que soient ces administrés. Vous n'allez pas au contact que des gens qui vont bien, qui n'ont pas de problème, qui sont contents de vous voir. Il y en a plein. À Côte-Bec, il y a une immense majorité de gens qui n'ont pas de problème, qui sont contents de la ville où ils vivent, qui sont contents de leur situation personnelle. Et puis, vous avez des gens qui sont en difficulté personnelle, difficulté sociale, qui ont des malheurs. Donc, il faut les accompagner. Et puis, vous avez des gens qui sont des perturbateurs, des embêteurs. Alors, ça va du voisin qui fait du bruit aux jeunes qui veulent casser des choses. Il faut aussi être au contact. Alors, évidemment, la première approche n'est pas tout à fait la même. Hein. Vous êtes beaucoup plus ferme, beaucoup plus directif. Moi, je rappelle toujours, je suis officier de police judiciaire, je suis le premier responsable de la commune, et vous reposez du cadre. Et je trouve que quand on pose du cadre aux gens, bon, ça va mieux. Moi, je me rappelle de gens avec qui j'ai eu des très grosses disputes, engueulades, rappels à l'ordre. Bah, sur le coup, ça se passe pas bien. Et puis, 2-3 ans, 4 ans plus tard, quand la situation a évolué, que le jeune a grandi, que la tension est moindre, bah, je crois que les gens vous sont redevables à un moment d'avoir remis du cadre. Alors, je dois aussi dire qu'à Côte-Bec, on n'a pas de grosses difficultés. On n'a pas de phénomène de bande, on n'a pas de phénomène de quartier dégradé, on n'a pas de phénomène de cité. Bon, voilà. Donc, on a évidemment des situations sociales qui sont difficiles parce qu'on est une ville modeste avec une population qui est parfois très modeste. Mais, ça se passe bien et on met notre engagement, notre bonne volonté et notre façon de faire pour que ça se passe bien.
Ouais. Et quelles sont, par exemple, les manières que vous pourriez avoir, par exemple, pour puisque comme vous venez de le dire, en fait, vous n'avez pas eu d'impact direct sur la commune de Côte-Bec-les-Elbeuf vis-à-vis des émeutes, mais comment vous pouvez aider, montrer votre solidarité au quotidien à d'autres élus locaux proches
Bah alors déjà, on leur a témoigné notre soutien. On leur a mis des messages. Moi, j'ai mis beaucoup de messages pour les collègues maires. Il y a eu une quinzaine de, 15-16 communes de la métropole de Rouen qui ont été impactées. Beaucoup de communes normandes, Vernon, Val-de-Reuil, Vire, certains quartiers de Caen, Hérouville-Saint-Clair. Enfin, voilà, je vais forcément en oublier. Beaucoup de collègues qui ont été impactés. Donc, je leur ai témoigné soit directement pour ceux que je connais très bien, soit par les réseaux sociaux, mon soutien. Et puis, on a décidé de faire, alors, lorsque ce podcast sera diffusé, ça sera déjà passé, mais on est à la veille du 13 juillet. Et le 13 juillet à Côte-Bec, on fait notre cérémonie du 14. On le fait toujours la veille au soir. Et donc, plutôt que de faire un rassemblement à midi devant la mairie le lundi qui suivait les émeutes, on a décidé de mettre le paquet sur la cérémonie du 14 juillet et de demander aux concitoyens de venir montrer qu'ils sont républicains, qu'ils aiment la nation, qu'ils aiment la France, qu'ils aiment les forces de l'ordre, parce que moi j'ai pas honte de dire que j'aime les forces de l'ordre et que les policiers qui dérapent hors du cadre doivent être sanctionnés en tant qu'individus, mais que l'institution police, comme l'institution pompier, comme l'institution gendarmerie, elle nous protège.
Mais c'est bon à rappeler et c'est quelque chose qu'aussi nous on a déjà fait puisque de toute façon je suis quelqu'un qu'il l'assume et qu'il le dit, j'ai horreur des généralités, en général. Donc, pour moi, il m'apparaît clairement que 95%, voire même un peu plus, des policiers font très correctement leur travail dans les conditions qui sont les leurs et qui peuvent être parfois compliquées. Et qu'effectivement, bon, il y a quelques brebis galeuses. Et donc là, je pense que la justice doit faire son travail. Et il me semble d'ailleurs que dans le cas qui nous occupe, c'est le cas.
Et vous avez raison de dire que les conditions de pratique de la police nationale, notamment, sont des conditions difficiles. Oui. On a vu récemment des scènes d'interpellation et d'arrestation qui peuvent paraître violentes, mais quand la police interpelle quelqu'un et qu'il résiste et qu'il essaie de se soustraire à son interpellation, évidemment, il faut que la police soit en surnombre et il faut évidemment qu'elle fasse à un moment respecter l'ordre de ne plus bouger, de se mettre à disposition de la police par la force. Il n'y a pas d'autre moyen de retenir quelqu'un qui veut pas que vous le reteniez. Et pourtant, nos concitoyens sont très heureux que les gens qui se comportent mal soient arrêtés par la police. C'est bien le but.
Et bien sûr. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, puisqu'on voit beaucoup des gens qui remettent en question l'autorité de la police. On voit même certains partis politiques qui disent qu'ils détestent la police et qui mettent des banderoles avec « j'aime pas les flics ». Qu'est-ce que ça vous évoque? Et surtout, est-ce qu'on est amené à devoir rétablir l'ordre public par tous les moyens?
Tous les moyens, non. Par tous les moyens légaux, évidemment.
Oui, tous les moyens légaux.
Tous les moyens légaux, oui, évidemment. Et la force reste à la loi. C'est une formule assez classique. Mais seul l'État est autorisé à disposer de la force relative pour faire obéir au respect des règles qui sont communes. Et alors moi, quand je vois des partis politiques ou des individus politiques ou des élus de la République, encore plus avec leur écharpe tricolore, ils se baladent dans des manifestations où on crie « tout le monde déteste la police », la vérité, c'est que même eux, le jour où malheureusement ils seront menacés, ils seront cambriolés ou ils seront agressés, et ben ils détesteront pas la police, ils auront besoin de la police pour les défendre. Oui. Et je trouve que c'est ravageur de laisser sous-entendre ce genre de choses, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, ça ne résume pas toute la situation et qu'il faut au contraire dire qu'on aime la police républicaine, la police qui respecte les règles et qu'on veut sanctionner les policiers, pas la police, mais les policiers qui ne respectent pas les règles et qui abusent des règles et qui se comportent mal. Et il y en a quelques-uns et ils doivent être sanctionnés et je crois qu'ils sont sanctionnés.
Et est-ce que pour ça, d'après vous, l'IGPN serait-elle assez indépendante à cette fin? Certains disent que non.
Je suis pas un spécialiste de ces sujets-là, donc je veux pas me lancer sur des sujets que je maîtrise pas. Effectivement, l'idée d'une IGPN hors de la police qui pourrait contrôler peut-être une bonne idée, elle a été, je crois, évoquée et étudiée. Après, voilà, je suis pas ministre de l'Intérieur, je suis pas président de la République, je suis pas premier ministre, donc je veux me garder de donner des leçons sur une matière qui dépasse très largement. Ce que je sais, c'est qu'à Caudebec et sur le territoire de la métropole de Rouen, on a eu longtemps pas assez d'effectifs de police nationale et on en a besoin, on a réclamé, j'ai vu des élus de toutes les couleurs politiques qui réclamaient plus d'effectifs de police. Ils sont arrivés fortement, on a encore des arrivées qui sont prévues, on a encore des besoins, mais la présence plus forte de la police sur notre territoire, c'est important.
Très bien. Je voulais alors revenir en deuxième partie de cet entretien. Vous savez qu'effectivement, on parle beaucoup dans le podcast normand de covoiturage, puisque justement, dans le podcast normand, on défend le covoiturage, qu'il soit subventionné ou non. C'est pas le... Et donc, en fait, que moi, bien sûr, hein, j'ai lu beaucoup de vos positions, notamment cette dernière année au Conseil métropolitain vis-à-vis des subventions accordées pour l'instant à l'opérateur Klaxit, qui, je crois, changera. C'est ce que j'ai entendu. À l'opérateur Klaxit, il a été racheté par BlaBlaCar. Et donc, en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, vous avez, je crois, dit que ça fait beaucoup de dépenses pour peu de recettes, si c'est la phrase que...
Oui, pas peu de recettes, mais surtout pour beaucoup d'abus. C'est ça qui m'a choqué. Notre groupe a rien du tout contre le covoiturage. D'ailleurs, moi-même, dans cette mairie de Caudebec, j'ai pris des dispositifs dans le cadre de la loi qui permettent de donner une prime aux agents de la commune qui covoiturent ou qui viennent en mode de déplacement doux. Donc, j'ai incité les agents et en quelques années, j'ai vu fleurir des vélos, des trottinettes ou du covoiturage dans la commune. Et donc, moi, je n'ai absolument rien contre le covoiturage. Moi-même, dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle, je préfère être 3 ou 4 dans une voiture que tout seul.
Vous en faites ?
Oui, j'en fais. Alors, j'en fais pas de manière organisée sur la plateforme, mais avec les collègues élus, lorsqu'on se déplace dans une ville voisine pour voir un équipement public ou pour faire une réunion, bah, on se déplace à 3 à 4, on se groupe.
Oui, ça.
On en fait. Et alors, moi, sur le territoire elbeuvien, c'est-à-dire les communes qui m'entourent le plus directement, je me déplace, comme aujourd'hui d'ailleurs, quasi exclusivement à vélo, sauf grande tempête, grand vent, grande pluie, je suis à vélo. Donc, j'ai pas de leçons à recevoir de déplacement durable parce que chaque fois que je peux, je le fais. En début de semaine, oui, c'est ça, lundi, j'étais à Rouen. Alors, je suis allé à Rouen en voiture, j'ai posé ma voiture dans le centre de Rouen et après, j'ai tout fait à pied en terre. Et après, ma journée finie, j'avais beaucoup de rendez-vous, je suis reparti en voiture, évidemment, parce que c'était plus simple pour rentrer à Caudebec. Sur le covoiturage et sur Klaxit, c'est pas tant les subventions à Klaxit qui nous ont choqués, c'est la manière dont la métropole, sans doute, un peu par naïveté et beaucoup par absence de contrôle, a ouvert les vannes d'un financement massif aux utilisateurs de Klaxit.
Non contrôlé.
Non, alors pas assez contrôlé, puisque on a passé la semaine dernière, ou il y a 10 jours, à la métropole, la 7e délibération du dispositif. Cette délibération, il n'a cessé d'être adapté, réduit, et cette 7e délibération avait à nouveau pour objet de renforcer les contrôles, de renforcer les exclusions, et notamment de restreindre les périmètres, et tous les chiffres qui sont disponibles sur les plateformes de data nous montrent que depuis qu'il y a eu une interpellation publique qui était la nôtre, puis des articles de presse qui ont fait un peu de bruit, eh bien, à la fois l'opérateur Klaxit et la métropole ont mis des freins, ont mis des garde-fous, et que sur des zones qui étaient absolument incompréhensibles en termes de covoiturage, parce que moi, ce que j'entends dans le territoire métropolitain, c'est 71 communes. Évidemment, si vous devez aller de Sahure à Belleboeuf, debout de la métropole, pas forcément bien relié par les transports en commun, que vous soyez financé en covoiturage, ça me choque pas totalement. Oui. Par contre, que la principale axe covoiturée soit l'axe Rouen-Centre-Madrier, qui est l'axe le mieux desservi, puisque vous avez un métro, 2 TER, et des lignes de bus qui desservent ces endroits-là, ça n'a aucun sens. Et on sait très bien que si ces zones étaient très covoiturées, c'est parce que c'était du faux covoiturage, c'était du covoiturage de boîte à gants, de poche, des jeunes qui avaient trouvé ou moins jeune d'ailleurs, qui avait trouvé le système très malin de prendre plusieurs téléphones et de se faire covoiturer soi-disant en bus. Bah, c'est scandaleux. Et c'est beaucoup, beaucoup d'argent, parce que la métropole, il y a quand même passé plus de 4 millions d'euros.
C'est ce que j'allais vous dire dans, voilà. Et donc, dans le résumé que j'allais vous faire.
Qu'on incite au covoiturage. Moi, vous voyez, qu'on donne une prime pour quelqu'un qui s'inscrit sur une plateforme de covoiturage, comme il y en a plusieurs qui existent. D'ailleurs,
la prime de 100 euros, par exemple.
Oui, par exemple, la prime du gouvernement. Ou alors, il y a des territoires qui ont conventionné avec l'Axit. Oui. C'est le cas de Strasbourg, c'est le cas de Nantes, c'est le cas de Rennes. Mais qui ne versent pas au kilomètre, qui versent à l'adhésion à la plateforme. Que vous incitiez les gens one shot à s'inscrire à une plateforme, pourquoi pas? Je trouve qu'il y a des manières peut-être plus utiles de dépenser l'argent public, parce que l'argent public est rare. Mais en tout cas, vous êtes sur du one shot, vous n'êtes pas sur du récurrent. Là, vous aviez ouvert les vannes d'une dépense récurrente qui fait que quelqu'un, tous les jours, pouvait vous prendre de l'argent, au point que la métropole a pris la décision de plafonner à 150 euros. Et donc finalement, on a une autorisation de frauder jusqu'à 150 euros. Et quand on m'a parce que la comparaison, et notamment le vice-président Cyril Moreau fait souvent la comparaison avec le bus. Il dit, le bus aussi, ça fraude. Évidemment que ça fraude dans le bus. Ouais. À part que dans le bus, quand vous montez, on vous donne pas de l'argent. C'est juste que vous payez pas le tarif qu'on vous demande. C'est pas exactement la même chose que d'aller chercher de l'argent. C'est-à-dire que vous ne contribuez pas à la dépense et au coût du service public, mais vous repartez pas avec de l'argent pour aller acheter vos disques, vos chaussettes ou votre bière.
En fait, et encore, il y avait pas la fraude n'avait pas été révélée révélée. Je dis toujours cette phrase révélée parce qu'en fait, c'est un secret de Polichinelle. En France, on triche. C'est-à-dire qu'en France, il y aura toujours des gens pour tricher. C'est...
Oui, mais ça dépend.
Peu importe en fait l'action politique qu'on veut mener, il y aura toujours des gens pour tricher.
Oui, dans le bus, vous mettez des contrôleurs. Et dans le site, il n'y a pas de contrôleurs. Personne contrôlé. Donc, voilà.
Alors, justement, Klaxit lui dit, alors je crois, je fais ça de mémoire, mais il me semble qu'il avait instauré des limitations en plus. C'est-à-dire, je crois qu'on peut faire une dizaine de trajets avant qu'il y ait un contrôle plus poussé. Et je sais notamment que chez Carros, maintenant, on doit mettre sa pièce d'identité au bout de 10 trajets. Est-ce que pour vous, c'est des mesures qui vont dans le bon sens? Qu'est-ce qu'on peut faire à terme avec
toutes les mesures qui renforcent la sécurité vont dans le bon sens. Mais l'histoire des 10 trajets, effectivement, c'était un des arguments de Klaxit. Et à part que les gens qui fraudent sont malins, eh ben, ils allaient jusqu'à 10 trajets, puis ils changeaient de compte, ils recréaient un compte, et ils revenaient, ils refaisaient 10 trajets.
C'est ça.
Donc, c'était pas suffisant. Et, c'est sans doute une différence fondamentale que j'ai avec Nicolas Mérignal, mais j'en ai plusieurs, c'est que, quand même, j'ai un problème avec la dépense publique récurrente qui sert à financer des bonnes pratiques. Qu'on incite aux bonnes pratiques, qu'on mette les moyens d'une bonne pratique. Par exemple, moi, j'ai soutenu très largement ce que la métropole a fait sous l'impulsion de Nicolas Mérignal et de son équipe de renforcer les transports en commun. Oui. Vous êtes venu à Côte-Bec en transport en commun. Oui. On a une ligne qui marche très bien, qui tourne toutes les 10 minutes, qui est de bonne qualité, etc. On en avait besoin parce que l'ancienne ligne 32 rendait pas le service qui était attendu. Et ben, ça, moi, je soutiens. C'est de la bonne dépense publique. C'est beaucoup d'argent public. C'est beaucoup d'argent public, hein. C'est des dizaines de millions de plus par an. Mais je soutiens cette dépense parce qu'elle va dans le bon sens. Aller sans contrôle donner de l'argent à des gens qui ne covoiturent même pas, puisque la vérité des chiffres montre que dès qu'on a resserré les contrôles, bah, le covoiturage est baissé.
C'est l'arnaque. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, est-ce que pour vous, vous venez de me répondre, mais est-ce que pour vous, parce que j'ai regardé effectivement les derniers chiffres depuis le coup de frein amorcé, effectivement, alors là même, il y a une évolution des chiffres, on disait plaie d'un tiers, mais là, j'ai regardé jusqu'au mois de juin, on arrive presque à une baisse de moitié, on n'est pas loin. On est là à 63 000 au mois de juin par rapport à 111 000 au mois de février.
Donc, c'est pas des covoitureurs en moins, c'est des fraudeurs en moins.
Est-ce que c'est forcément des fraudes? On connaît pas d'ailleurs l'étendue de cette fraude, non. Puisque évidemment,
on
peut pas la définir. J'ai entendu des...
Mais vous avez dit vous-même tout à l'heure, secret de Polichinelle. On sait très bien que sur les réseaux sociaux et dans un certain nombre de milieux où les gens se parlent beaucoup, et notamment les étudiants, la fac, et ben, tout le monde connaissait le système.
Est-ce que vous êtes, dans le cadre par exemple de Klaxit, contre toute subvention publique de ce type pour inciter au covoiturage?
Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt pour l'incitation à l'amorce. Moi,
Mais pas pour les trajets du quotidien.
Bah non, parce que je pense qu'on est quand même dans une société de la responsabilité. Des gens qui covoiturent, il y en a déjà plein. Que ça soit pas naturel de covoiturer, je le sais, je le comprends.
Oui.
Que il faille parfois inciter les gens à se dire, tiens, essaye du covoiturage, on te donne une prime de 100 euros, tu vas t'abonner sur la plateforme, tu vas voir que c'est bien, tu vas trouver des covoitureurs. Et des gens qui covoiturent, il y en a un paquet. Et la vérité, c'est que de covoiturer, ça fait faire déjà des économies aux deux.
Oui.
Celui qui a le véhicule économise sur son prix de trajet, et celui qui prend le covoiturage économise sur ce que lui coûterait un abonnement bus, un abonnement train, ou d'avoir lui-même un véhicule. C'est un système qui est déjà vertueux en lui-même. Donc, moi, qu'on incite, et c'est une différence que j'ai eue avec d'ailleurs un certain nombre de membres du gouvernement et qui j'en ai parlé, qu'on incite à adhérer sur une plateforme et à rentrer dans une démarche vertueuse, oui, mais qu'on finance une pratique quotidienne des gens, non. Et je l'avais dit à Cyril Moreau, c'est la première fois que je vois un écologiste qui m'explique qu'il faut financer du trajet en voiture. Et il avait dit, oui, c'était pas naturel dans mon esprit. Ben, je dis, t'aurais mieux fait de rester quelque chose de pas naturel dans ton esprit, parce que je préfère mettre de l'argent sur les transports publics que d'aller financer un ersatz de transport privé qui rend pas le service attendu.
Est-ce que ça voudrait dire que dans le futur, on devrait éventuellement, au-delà bien sûr de véhicules électriques et de ce futur-là, avoir une dépendance moindre à la voiture, ou alors, si, quand la voiture est nécessaire, ça puisse être partagé?
Ça, c'est une vraie question.
Parce que si on développe les transports publics, effectivement, ça doit induire que, dans le futur, il doit y avoir une dépendance moindre à l'automobile.
C'est déjà très largement le cas. Il suffit de voir comment s'est passé l'armada à Rouen il y a quelques semaines. Des tas de gens qui, d'habitude, auraient pris leur voiture pour venir à Rouen, ont pris le TER, les transports en commun, le métro, et se sont adaptés parce qu'ils savaient que c'était l'armada. Et d'ailleurs, j'étais en début de semaine avec les responsables de l'office du tourisme, et il y avait les artisans qui étaient là, les professionnels, et qui disaient, parce que c'était une vraie question, les artisans ont réussi à bien circuler pendant l'armada dans Rouen, parce que tous les particuliers avaient anticipé que ça serait potentiellement le bazar, que pour leur propre trajet à eux, ils préféraient utiliser le TER pour venir à l'armada, que ceux qui pouvaient éviter de venir cette semaine-là ont évité d'aller faire ce qu'ils avaient à y faire, et que du coup, on a retrouvé une circulation assez fluide. Mais du coup, ça renvoie à la question de l'évolution du modèle automobile. Moi, je crois pas qu'on aille vers la sortie de l'automobile individuelle, puisqu'on va beaucoup vers une automobile décarbonée. Oui. Tout le monde investit sur l'automobile décarbonée. Et c'est aussi ce que je dis sur le contournement Est de Rouen. Une fois que nos voitures et nos camions seront décarbonés, il faudra bien quand même qu'ils continuent à passer quelque part. Il se trouve que pour l'instant, le parc automobile, il n'est pas totalement en réduction, à part au centre de Paris, au centre de quelques grandes métropoles, et qu'une grande partie de nos trajets européens, notamment les camions, se font encore sur ce mode-là. Ces véhicules décarbonés, il faut bien qu'ils continuent à passer quelque part.
Je voulais revenir également, donc comme je l'ai dit avant, au début de cette interview, vous êtes également le président d'honneur de Rouen Tourisme, et comme vous le savez, mon podcast normand parle aussi énormément de patrimoine, puisque c'est notre passion. Je voulais savoir, surtout ici dans ce secteur du territoire helvétien, c'est un territoire historiquement industriel, cité de Rapierre. Moi, je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle est très révélatrice. Ben justement, une fois dans un covoiturage, il y a quelques années, j'ai rencontré une étudiante, je rentrais à Rouen. J'ai rencontré une étudiante qui s'installait pour la première fois et elle me demandait comment c'est Rouen, est-ce que c'est une ville sympa, est-ce que c'est bien pour les étudiants, et des choses comme ça. On arrive dans le secteur de la SUM 3 et là, forcément, on voit donc toutes les usines et forcément, ben, un peu une expression de déception. Et donc, en fait, depuis ce temps-là, je me suis toujours posé cette question. Comment on arrive à faire aimer ce territoire métropolitain quand, au premier abord, bah forcément, quand on arrive à Rouen en venant du Sud, la plupart du temps, on n'a pas forcément le décorum auquel on s'attend.
Alors, oui, vous avez raison. C'est une force d'avoir cette industrie aussi présente sur le territoire métropolitain de Rouen, sur la vallée de la Seine en général, et en Normandie. La Normandie est une terre industrielle, et tant mieux, il faut le développer. Pour avoir beaucoup voyagé en France et notamment en voiture, la plupart des villes dans lesquelles vous rentrez pas par des zones super sympas et super chatoyantes. En général, quand il n'y a pas d'industrie, vous avez des zones commerciales qui ont été quand même assez moches pendant des années et des années. Ça s'améliore un peu. Il y a des zones commerciales qui sont un peu plus jolies. On en a fait une à Quebec récemment qui est un peu plus jolie. Mais clairement, quand même, les boîtes à chaussures, quand vous arrivez dans des villes moyennes ou des grandes villes, ça fait pas envie. Et je connais plein de villes sublimes dans l'Europe entière où quand vous arrivez, vous trouvez quand même que l'environnement est un peu rude. Et donc la force de Rouen, moi je suis un adopté rouennais d'il y a 20 ans, hein. j'étais pas en Normandie il y a 20 ans, je suis bordelais,
d'accord.
Je suis venu ici pour travailler, et puis j'ai fait Racine, ma fille est née ici, je m'y suis beaucoup plu, et lorsque je suis arrivé à Rouen la première fois, j'allais pour un entretien d'embauche, je me suis arrêté, j'avais un peu de temps, boire un café, place de la Pucelle, j'ai été immédiatement séduit par la qualité de la ville, la qualité de vie. Et c'était à une époque où le centre-ville de Rouen, les quais, n'étaient pas encore aménagés comme ils le sont maintenant. Et les équipes successives ont beaucoup amélioré Rouen. Donc, faire aimer Rouen, c'est la faire connaître. et faire connaître une ville, c'est deux choses. Vous avez rappelé que je me suis engagé beaucoup dans le tourisme, donc c'est faire venir des touristes. Et moi, j'ai aujourd'hui pour Rouen, pour la Normandie, une vraie préoccupation, c'est que les touristes, c'est très bien, il en faut beaucoup et on va continuer à développer ça, mais il faut aussi de l'attractivité résidentielle. Il faut que les gens viennent habiter chez nous. Et c'est une difficulté, si vous parlez avec les entrepreneurs, les industriels du territoire normand, ils ont du mal à recruter. Notre démographie normande est en berne depuis maintenant presque 10 ans. Depuis 2015, nous perdons des habitants. Nous sommes une des seules régions de France à perdre des habitants. Il y a très peu de régions de France qui perdent des habitants.
Et la pourquoi, d'après vous?
Ben, pour des raisons différentes, parce que les départements normands sont pas tous les mêmes. Sans doute, l'absence totale de couverture médicale dans l'heure, enfin, totale, pas totale, heureusement, mais le grand déficit médical dans l'heure joue en défaveur de l'heure. La vallée de la Seine et ses usines, comme vous l'avez dit, et puis les événements récents, Lubrizol, Bolloré Logistique font que une partie de nos gens qui pourraient venir habiter ici se disent quand même, cette région, il y a des risques industriels, qui sont vrais. Vous avez aussi, sur la côte normande, foncier qui se renchérit beaucoup et des maisons qui deviennent de plus en plus inaccessibles pour les salariés, qui fait que ce sont surtout des retraités, des inactifs, ou des maisons secondaires, ou du Airbnb qui s'installent. Il y a des communes, je pense à la transformation d'Honfleur, ces 10 dernières années, hein, c'est devenu une cité Airbnb, Honfleur. Il y a de moins en moins de gens qui ont plaisir à y habiter parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vient y passer quelques heures, quelques jours. Et donc, tout ça, c'est des sujets, moi, qui me préoccupent beaucoup. Et je crois que si on devait mettre le paquet sur l'avenir de la Normandie pour les prochaines années, il faudrait mettre le paquet sur son attractivité résidentielle et sa capacité à garder les jeunes, à former les jeunes, à les garder et à attirer de jeunes professionnels et de jeunes actifs.
Alors, dans le continuum de ce qu'on vient de dire, il y a aussi la problématique du surtourisme. Alors, il y a 2-3 lieux en Normandie qui sont emblématiques, mais je vais prendre l'exemple d'Étretat. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, dire qu'il y a d'autres endroits aussi qui sont magnifiques et qui méritent d'être vus en Normandie et qui ne bénéficient pas notamment de la même exposition?
Alors vous avez raison de dire qu'il y a 2-3 sites en Normandie qui sont rendus compliqués d'accès à la haute saison par le surtourisme. C'est le Mont-Saint-Michel, Étretat, Honfleur récemment, qui deviennent vraiment très durs. Ça, c'est une difficulté. C'est des icônes. Et puis, il y a eu des effets séries. Lupin a mis beaucoup l'accent sur Étretat. Alors, notre force et notre chance, c'est que dans un rayon très proche de l'ensemble de ces sites qu'on vient de citer, vous avez immédiatement à quelques kilomètres des sites magnifiques aussi, qui sont beaucoup moins connus, qui sont beaucoup moins fréquentés. Ici, on est à quelques dizaines de kilomètres de l'abbaye du Bec-et-Loin, qui est un lieu sublime. Il y a du monde au Bec-et-Loin, mais enfin, on n'est quand même pas du tout dans le surtourisme. Ouais. Vous pouvez aller dans le Perche, où il y a du monde, mais il n'y a pas encore de surtourisme. Vous pouvez aller dans la Suisse normande, où il y a du monde mais où il n'y a pas de surtourisme. Vous pouvez aller évidemment autour de Rouen, sur la Vallée de la Seine, à La Bouille, à Duclair, voilà, à Côte-Bec-en-Caux, des coins magnifiques, il y en a beaucoup, à Villequier, au Havre. Moi, j'aime beaucoup le Havre sous l'impulsion d'Antoine Ruffnac et d'Edouard Philippe, a passé des paliers touristiques incroyables. Edouard Philippe le dit souvent. Il y a 20 ans, quand on disait aux gens, on va faire le pari du tourisme au Havre, les gens vous regardaient avec des yeux éberlués. Ils pensaient pas qu'il y avait un potentiel touristique. Aujourd'hui, il est là et il y a encore des marges de progression.
Vous savez, j'ai une anecdote à ce sujet sur le Havre qui était, et c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai fait un stage à l'office de tourisme de Rouen. Et en gros, c'est vrai que quand je disais à des personnes, notamment venant de Paris, donc de la vallée de la Seine, quand j'expliquais aux gens que Le Havre était inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, on me regardait avec des yeux
éberlués.
Et ça vaut le détour. Mais en fait, justement, donc effectivement, j'en profite pour leur dire quelques coups de cœur, puisque c'est aussi ce podcast, il est fait pour ça. Donc effectivement, Le Bec-et-Loin, pour ma part, Saint-Céneri-le-Gérais, aussi dans l'Orne.
Dans l'Orne, oui. Dans les plus beaux villages de France.
Voilà, dans les plus beaux villages de France, Lyons-la-Forêt dans l'Eure. Et peut-être un peu plus fréquenté, lui, par contre, Val-les-Roses.
Voilà. Oui, Val-les-Roses, il y a du monde.
Oui, Val-les-Roses, il y a du monde.
Dès qu'il y a la mer, il y a un peu plus de monde. Oui.
C'est ça. Et en fait, je pense aussi... Il y a un tourisme peut-être un peu plus local aussi qui s'installe en Normandie, j'ai l'impression, ces dernières années.
Oui, les Normands fréquentent beaucoup la Normandie et c'est tant mieux. Je pense que la réunification de ce point de vue-là ne fait pas de mal, même si je sens encore ici ou là, notamment chez les ex-bas normands, parfois un particularisme local. Mais moi, je me déplace beaucoup en Normandie, je suis conseiller régional de Normandie, j'ai été tête de liste, donc j'ai beaucoup fréquenté la Normandie et il y a des coins merveilleux. J'ai oublié tout à l'heure dans les coins merveilleux de citer évidemment le Cotentin, où il y a des ports et des endroits qui sont fréquenté mais pas encore saturé, donc il faut se balader en Normandie, et puis il faut que de notre tourisme, de notre qualité de vie, on fasse un point positif et qu'on fasse surtout, je le disais tout à l'heure, un point d'accroche pour que les futurs habitants de la Normandie, les futurs professionnels qui vont travailler dans nos entreprises, qui vont développer ce territoire, viennent et restent. Alors on n'est pas obligé de rester 40 ans au même endroit, hein. On peut rester 10 ans, faire une partie de sa carrière, changer, ça c'est très bien, et on a quelques enjeux de d'infrastructure, de transport qu'il faut qu'on améliore. J'en parlais hier avec des collègues élus à Paris, en Île-de-France. Oui. L'Île-de-France, en ce moment, regarde d'un œil un peu bizarre notre ligne grande vitesse Paris-Normandie, parce que ça va faire des travaux et un peu d'impact foncier sur les Yvelines. Je leur dis, écoutez, les amis, sur la zone rouennaise, le contournement est, pour l'instant, il se fait pas. On n'a pas d'aéroport. Si on nous améliore pas le train, on va perdre dans le classement de l'attractivité résidentielle et de l'attractivité des régions françaises. Donc, il faut qu'on rattrape ce retard-là. On ne peut pas rester durablement pas connecté correctement à la grande ville, à Paris, à ses aéroports, à ses gares.
Surtout que, évidemment, c'est un secret pour personne, hein, tout le monde le dira, la ligne actuellement, Rouen Paris, c'est quand même quelque chose en termes de durée.
Alors, ça s'est amélioré et je le dis d'autant plus tranquillement que j'étais candidat contre lui aux élections, donc je suis pas d'accord avec lui surtout, mais sous l'impulsion d'Hervé Morin, il y a eu des investissements très importants faits sur le matériel roulant, mais il se trouve que il y a encore des tas d'incidents, il y a encore des tas de problématiques, et il se trouve qu'en ce moment, c'est le cas du moment où on se parle là, les travaux d'Eole et du Grand Paris font qu'on perd une heure et demie sur les trajets normands en ce moment. Alors, on subit ça, et moi je disais il y a quelques jours aux Parisiens, vous nous faites subir les travaux d'Eole et on l'accepte, on comprend la difficulté, ouais. Et on comprend cette phase de travaux, mais il faudra que vous acceptiez qu'on fasse le saut de mouton à Saint-Lazare, qui permettra au train normand de sortir plus vite de la gare Saint-Lazare, ouais. Il faudra que vous acceptiez que dans les Yvelines, à un moment, il y ait une ligne en grande vitesse qui double la ligne dans le Mantois, parce que sinon on n'arrivera pas à faire passer tous les trains.
Et c'est quoi la réponse que vous avez par rapport à ça?
Ça dépend des interlocuteurs. En plus, il se trouve que là, il y a des élections sénatoriales en Ile-de-France, et notamment ouais. Dans les Yvelines, donc là, la réponse de Madame Pécresse, elle est très politique, quoi. Elle oui. Est très politique. Elle dit les Normands, vous nous enquiquinez, quoi. Bon, résultat des courses, je dis souvent à Hervé Morin que je comprends pas pourquoi il a soutenu Madame Pécresse au présidentiel, mais ça, c'est un autre débat.
Bref, c'est un débat sur lequel on
qui n'est pas le débat du jour.
On ne rentrera pas ici. Je voudrais revenir avec vous maintenant sur des problématiques liées à l'accessibilité et plus particulièrement un focus sur la loi de 2005 qui permet. En théorie, l'accès, la mise en accessibilité de tous les bâtiments publics. Il y a une question que je voulais vous poser à ce sujet. Certains peuvent dire, par exemple, qu'il s'agit en fait d'une loi de prise de conscience, mais d'un point de vue budgétaire, d'une coquille vide. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah bah non, je pense exactement le contraire, enfin pas totalement le contraire parce que la prise de conscience était très utile, mais c'est pas une autre coquille vide quand on l'applique. Alors je sais pas du tout où en est le bilan de la ville de Rouen à la matière. Oui. Ce que je sais, et je le dis, c'est qu'avec la métropole, on travaille beaucoup sur l'accessibilité de nos trottoirs, de nos passages piétons et de nos stations de bus, donc ça marche très bien. Et moi, je me rappelle très bien la décision qu'on a prise avec l'équipe municipale quand on est arrivé aux affaires ici en 2014, c'est qu'on a consacré quasiment tous nos budgets d'investissement pendant 4 ans, à ne faire que ça. On a consacré, alors pas tout à fait, on a fait quelques autres choses, mais sur 4 exercices, on a dépensé volontairement et utilement 2 200 000 euros pour mettre en accessibilité tous nos bâtiments publics, cette mairie évidemment, oui. Nos écoles, notre médiathèque, notre salle des fêtes, accessibilité à tous les types de handicaps, hein, handicap physique, handicap visuel, etc. Ça, on l'a fait de manière très volontariste. Ça a aussi permis, évidemment, à chaque fois que vous faites ce genre de travaux, de rafraîchir un toilette, un couloir, d'améliorer la luminosité. Donc, tout le monde y gagne en confort. Et on l'a fait de manière extrêmement pragmatique, c'est-à-dire qu'on a dépensé là où il y avait besoin de dépenser et de faire des adaptations de portes, de rampes, d'escaliers, et il y a des endroits où on s'est posé des questions, et je pense à un exemple très très parlant pour moi, à la médiathèque de Caudebec qui est totalement de plein pied, où il y a juste un étage dans lequel il y a les disques, ouais. On me proposait pour 45 000 euros un ascenseur pour monter chercher les disques, et ben on a trouvé une solution qui fait qu'on peut consulter le catalogue des disques au rez-de-chaussée, et qu'on demande à l'agent de la médiathèque de vous... Ouais. Descendre le disque, ce qui me paraît tout à fait concevable en termes d'accessibilité, c'est-à-dire que le service public est le même, vous avez accès totalement à la discothèque de la ville de Caudebec et de sa médiathèque, à part qu'on a évité une dépense qui, pour le coup, aurait été superfétatoire par rapport aux besoins attendus.
Oui.
Écoutez, nous, elle a fonctionné. Alors, la vérité, effectivement, c'est qu'on n'a pas eu particulièrement d'aide financière, même si les projets communaux sont plutôt aidés. On a des aides, d'ailleurs, de la métropole, du département, de la région, de l'État, des financements qui arrivent assez régulièrement, heureusement. Mais après, c'est une question de choix. Moi, quand je suis devenu maire, j'ai constaté que la commune n'était pas aux normes handicap, alors que cette norme était obligatoire. Donc, on y a mis du volontarisme.
Ça veut dire rien?
Presque rien. Ben, si, les bâtiments nouveaux qui avaient été livrés. Oui. La mairie avait été refaite, donc elle était quasiment totalement aux normes. Mais les anciennes écoles, les bâtiments les plus anciens, rien n'avait été fait. Rien. Ouais. Donc, on a tout fait. Mais on le regrette pas du tout. Et c'est de l'argent public bien dépensé parce que à la fois ça rend le service d'accessibilité à tout un tas de personnes parce qu'on parle toujours du handicap, mais vous avez la personne personnes âgées, les personnes qui se blessent temporairement. Je me suis pété le tendon d'Achille il y a un an et demi. Je peux vous dire que j'étais beaucoup moins habile avec mes jambes, mes pieds et mon fauteuil quand j'étais en fauteuil, puis mes béquilles quand j'en avais besoin. Donc l'accessibilité, je me suis bien rendu compte de ce que c'était. Puis vous avez les poussettes. Et puis par ailleurs, cet argent public que vous dépensez, en général, c'est quasiment le cas partout, il va vers des petites entreprises locales, des petits artisans, des groupes de travaux publics locaux, et donc c'est de l'argent que vous réinjectez dans l'économie locale et ça fait de l'emploi local.
Alors justement, c'est quelque chose que vous venez de dire, donc vous avez connu une période à mobilité réduite, c'est le cas de le dire.
Oui, absolument.
Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Comment on adapte, surtout quand on est valide de base, comment en fait on s'adapte à cette nouvelle manière de percevoir en fait l'environnement? C'est comment?
C'est une vraie. Alors j'ai eu la chance d'être en fauteuil très peu de temps puisqu'après on m'a fait un soulier adapté qui permettait de se déplacer, donc j'étais quand même beaucoup beaucoup plus mobile, même si c'était un peu plus difficile. Quand vous êtes les quelques semaines où j'étais en fauteuil, bah vous découvrez que les portes des toilettes, les portes pour rentrer dans tel ou tel bâtiment, ça a beau être réputé accessible, si vous n'arrivez pas à pousser la porte, vous êtes très embêté quoi. Donc vous découvrez sur votre fauteuil roulant qu'il y a des trottoirs que vous n'avez pas à passer. Que alors la vérité c'est que j'avais un pied qui était invalide et l'autre pied qui était totalement valide. Ouais. Donc, vous arrivez toujours à poser le pied, à vous déplacer, etc. Mais vous découvrez effectivement une autre façon de pratiquer la ville. Et donc, ça vous interpelle encore plus. J'étais déjà sensibilisé à cette question-là parce que je vous dis, comme maire, une des premières décisions que j'avais prises, c'était de mettre le paquet sur l'accessibilité. Mais là, j'ai vu quelques années après la galère parfois dans laquelle on est quand on est en fauteuil. Oui.
Mais est-ce que parfois, quand on est en politique ou grand dirigeant d'entreprise, moi, je mets parfois, vous savez, un peu, c'est pas la même chose, mais je fais des parallèles entre les deux parce que c'est exercé dans des cadres de très grandes entreprises aussi, de très grosses responsabilités sur un très grand nombre de salariés, où la question aussi de l'accessibilité en entreprise et dans le privé se pose également. Est-ce que parfois on n'a pas un petit peu, c'est un grand dirigeant d'entreprise qui me l'a dit, dont je tairai le nom, qui m'a dit, écoutez, parfois, on a un peu la tête dans le guidon. On n'est pas forcément concerné de prime abord par ces sujets. Et c'est des choses que parfois on oublie.
Alors, moi, j'ai pas été dirigeant de grande entreprise. Je suis dirigeant d'entreprise, une toute petite en ce moment, une plus grande il y a quelques années. Ouais. Mais ce qui est sûr, si je parle de mon mandat de maire et de la fonction élective locale, c'est que le réel, il vous rattrape vite, hein.
Oui,
voilà. Moi, j'ai toujours dit, on est à portée de baffe, à portée de coup de pied aux fesses. Ouais. Symbolique, hein. Pas de violence envers les élus, évidemment. Mais nos concitoyens, et notamment moi, dans ma manière de pratiquer le mandat local, d'être très accessible, d'être sur le marché tous les dimanches matins, de rencontrer les gens dans la rue. Le fait de se déplacer à vélo aussi, hein, ça rend les rapports avec les gens beaucoup plus sympas, hein.
Bien sûr.
Vous n'êtes pas en voiture, vous n'avez pas les fenêtres fermées, et quand vous êtes à vélo, quelqu'un vous interpelle et qui vous fait signe, vous vous arrêtez, vous discutez 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes avec lui, le temps qu'il faut pour bien comprendre sa question. Et donc, le réel se rappelle à vous, et des personnes en situation de mobilité réduite, j'en connais beaucoup, et chaque fois qu'on peut améliorer les choses, on le fait, c'est pas le cas partout. Et quand vous êtes dans des villes anciennes, hein, la ville de Caudebec, son centre-ville, vous l'avez parcouru tout à l'heure, c'est un centre-ville ancien. Oui. Vous aurez durablement des trottoirs qui seront pas aux normes parce qu'ils sont tout petits et que la rue est toute petite et qu'elle était déjà pas faite pour faire passer des voitures, et alors elle est encore moins faite pour faire passer des vélos, des piétons, des personnes à mobilité réduite et des voitures. Ça, c'est la difficulté de nos centres-villes anciens.
Et justement, c'est la dernière question que je voulais vous poser. On dit en fait souvent que forcément, alors j'en ai discuté aussi avec des guides conférenciers de cette question, et j'aimerais aussi solliciter votre avis là-dessus. Quand un monument est classé en fait monument historique, on peut pas modifier de crainte, en fait, de dénaturer le monument en question. Est-ce que parfois, dans beaucoup de lieux, est-ce qu'on dénature réellement, l'image, en fait, ou le monument en lui-même, ou sa structure. Je prends l'exemple le plus marquant que j'ai vu, par exemple, la basilique Saint-Pierre au Vatican, qui est le centre, en fait, de tout ce qui touche à la religion chrétienne catholique, est adapté pour l'essentiel sans que ça ne pose aucun problème.
Alors oui, ça dépend évidemment de l'époque de construction. Plus vous êtes dans le médiéval, plus c'est compliqué. Moi, j'ai des exemples récents. Je suis allé notamment, j'ai été très marqué par la qualité de restauration d'une... Alors, je cherche le nom de l'église à Gand, en Belgique, où il y a la fresque de l'Apocalypse, là, qui est, enfin, le rétable de l'Apocalypse, qui est un truc incroyable. Ouais. Et non, c'est pas l'Apocalypse. Enfin bon, je confonds. Excusez-moi. Mais une des principales églises de Gand, en l'occurrence, a été parfaitement réhabilitée. Et puis ils ont géré l'accessibilité par la partie extérieure. Ils ont, dans les parties non ouvertes au public, mais qui se mettent dans le son, ils ont réglé la question de l'ascenseur, etc. Et donc, on y arrive dans quand même beaucoup, beaucoup de cas. Moi, j'ai eu la chance, aux côtés de Laurent Fabius à l'époque, de travailler sur le projet de l'historiel Jeanne d'Arc, qui est dans une partie des locaux privés de l'archevêché de Rouen. On a ouvert la première fois qu'on est descendu dans des caves qui n'avaient pas été modifiées depuis le 14e siècle. Et ben aujourd'hui, l'historiel Jeanne d'Arc, il est totalement accessible. Personne n'a mobilité réduite et les outils mis à disposition ont été créés. Voilà, alors c'est un investissement important, c'est une maintenance importante, mais dans la plupart des cas, on y arrive quand même, heureusement.
Alors, vous avez dit justement, en fait, que dans beaucoup de cas, vous n'aimiez pas un excès de dépenses publiques. Alors, dans le cadre notamment de l'accessibilité, paradoxalement, comment on peut allier... Parce que c'est quelque chose qui est très coûteux. Comment on peut allier une forte, enfin une dépense publique qui soit en même temps harmonieuse en remplissant les besoins en fait d'accessibilité.
Évidemment, la dépense publique, il faut toujours la regarder de près. Je fais toujours moi la différence entre la dépense publique récurrente, qui sont les dépenses de fonctionnement, et la dépense publique d'investissement. Ouais. Un investissement, alors vous pouvez faire des bêtises et vous pouvez dépenser trop, ça arrive. Il y a eu quelques grands exemples, mais un investissement, c'est en mauvais français one shot. Vous investissez une fois. Cet argent-là, comme je disais tout à l'heure, il va dans des entreprises qui emploient des gens, qui créent un flux financier, qui créent de l'économie, qui créent de la dynamique économique. Donc, cette dépense-là, si elle est bien calibrée et qu'elle est corrélée surtout avec des frais de fonctionnement après qui sont, comment dire, bien dosés, c'est plutôt de la bonne dépense. C'est-à-dire que la dépense d'investissement, à partir du moment où elle est financée, c'est de la bonne dépense. Moi, ce qui me terrifie dans les collectivités locales, certaines, et c'est le cas en ce moment à la métropole de Rouen, c'est de laisser filer les dépenses de fonctionnement. Ça m'inquiète beaucoup parce que la dépense de fonctionnement, c'est une dépense récurrente qui vient plomber durablement vos capacités justement à investir et à vous projeter vers l'avenir.
Merci beaucoup.
Merci. Alors, à vous.
C'était une très bonne interview. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre accueil ici en mairie de Côte.
Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, dans 15 jours plus précisément. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite sur le podcast Normand. À la prochaine !